Je vous invite à vous tourner donc dans Luc, chapitre 24, qui fait du récit de Luc un évangile. Pourquoi ça ? Parce que évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et sans le chapitre 24, le récit de Luc serait bien triste, serait bien décevant, décourageant. Mais dans ce chapitre 24, nous avons pas vraiment la description, mais la narration, le récit, l'évidence du plus grand événement, du plus important événement de toute l'histoire des temps. La résurrection, ça signifie notre salut. La résurrection, Paul nous le dit dans la lettre aux Romains. Jésus a été ressuscité pour notre justification. Alors, c'est un mot un peu vieilli, la justification. La meilleure façon de dire cela, on en a parlé sur la plage le jour de Pâques cette année. Un sermon très, très juste par un pasteur d'une autre église. La justification, c'est, en termes communs, c'est être déclaré innocent. Être déclaré innocent. Je ne sais pas s'il y a des moments dans votre vie où vous avez fait des bêtises, vous avez des choses coupables. Peut-être en tant qu'enfant, vous avez cassé le vase de la maison. Vous avez peut-être fait des choses plus graves. Mais lorsque l'on vous pardonne, lorsque l'on vous considère ainsi pour innocent, il y a une joie, une paix, un réconfort, une page qui se tourne dans votre cœur et c'est un merveilleux sentiment. Ici, il s'agit de tourner la page pour l'éternité, d'être déclaré innocent par Dieu. Et on reparlera un peu des implications théologiques, mais c'est quelque chose qui devrait nous remplir de joie. Et nous, les chrétiens, surtout si l'on est chrétien depuis un certain temps, ça peut être quelques années, ça peut être la moitié d'une vie, ça peut être toute notre vie si on est tombé dedans quand on était petit, comme on dit des fois. Mais cette idée d'être déclaré innocent, ça devrait nous motiver pour le restant de nos jours. Ça devrait nous mettre un sourire sur le visage, ou du moins un sourire dans le cœur que rien ne peut emporter. Et ce qui est intéressant, c'est que les critiques de la foi chrétienne ont essayé d'attaquer le phénomène de la résurrection avec des tas de théories, mais qu'en fait ces théories, elles ne résistent pas à l'analyse des faits historiquement prouvés, et c'est quelque chose qui nous devons savoir aussi, nous devons pouvoir défendre notre foi en défendant la résurrection. Paul était si convaincu de l'importance de cette résurrection qu'il nous disait que s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est jamais ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication, ce que nous annonçons, la foi chrétienne, votre foi en ces déclarations aussi est vaine. Il va même plus loin, il dit, il se trouve même, c'est dans 1 Corinthiens 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, c'est vide. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. C'est la clé de voûte de la foi chrétienne, la résurrection. Et c'est décrit dans les quatre évangiles, bien sûr. Évangile, encore une fois, ça veut dire la bonne nouvelle. Et cette résurrection, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Une chose intéressante aussi, c'est que on va voir que la résurrection, le phénomène, le processus de résurrection n'est pas décrit dans aucun des évangiles. Alors certains disent, ah ben, s'il y avait vraiment une résurrection, on nous aurait donné des détails. Il y a une lumière qui s'est faite sous les bandes, les bandelettes. Et puis il y a une bandelette qui s'est décrochée, le velcro n'a plus tourné. Et puis ça a commencé à bouger. Non, rien de tel n'est dit. Et ça devrait, au lieu de miner notre foi, ça devrait la conforter. Pourquoi ? Parce que les récits des évangiles ont été écrits par des témoins oculaires. Ils ont décrit ce qu'ils voyaient. Ils ne sont pas allés imaginer ce qu'ils n'ont pas vu. La résurrection s'est produite dans le secret de la tombe. Et si on avait voulu fabriquer une histoire, on se serait efforcé de décrire ce phénomène incroyable de résurrection. Des théories disent par exemple qu'il y a la théorie de l'évanouissement. Jésus n'est pas mort vraiment sur la croix, il a seulement bien morflé, on dirait entre guillemets, il était bien abîmé, mais lorsqu'on l'a allongé dans la tombe qui était bien fraîche, il a repris ses esprits, il a repris des forces, il s'est bien reposé et il a pu, à lui tout seul, faire bouger la pierre, sortir, se cacher, partir. On sait que dans le récit, il est prouvé que Jésus est vraiment mort. Les soldats romains, qui étaient des gens qui connaissaient la mort pour la donner et l'éviter quotidiennement, n'avaient même pas pris la peine de couper ses jambes, de briser ses jambes, ce qui était une façon d'accélérer l'asphyxie du supplicié, qui ne pouvait plus se pousser sur ses jambes pour respirer et faire rentrer de l'air dans ses poumons. Il est dit aussi que lorsque un soldat romain lui a donné un coup d'épée dans le cœur, il est sorti de l'eau et du sang, et que ça, c'est un signe, s'il est sorti de l'eau, c'est qu'il y avait déjà eu une décomposition du sang en plasma et en cellules rouges. Et donc ça, cette théorie ne tient pas la route, le fait qu'il se soit qu'évanoui. Une autre théorie, c'est de dire, c'est la théorie de la mauvaise tombe. En fait, les femmes, lorsqu'elles sont allées au tombeau le matin de Pâques, ce qu'on appelle le matin de Pâques, le dimanche matin, elles n'ont pas le sens de l'orientation comme toutes les femmes, hein. Ça, c'était les propos machistes de ces gens qui pensent qu'elles se sont trompées. Et en fait, elles ont trouvé une tombe vide. Mais c'est sans compter sans le contexte historique. Lorsque les disciples ont commencé à annoncer que Jésus était ressuscité, il aurait été facile pour les chefs religieux d'aller à la bonne tombe et de dire « Attendez, vos histoires, ça ne tient pas la route. » Il y a tout un faisceau de... C'est incroyable la créativité de ceux qui refusent de croire. Quand on ne veut pas croire à quelque chose, on peut trouver plein d'excuses. Théorie de l'évanouissement, théorie de la mauvaise tombe. Et il y a probablement une dizaine d'autres théories pour essayer d'éviter de reconnaître que Jésus est vraiment ressuscité. Et dans l'histoire, il y a eu beaucoup de récits qui ont été faits ou de livres qui ont été écrits pour montrer justement que, pour essayer de prouver que la résurrection n'était qu'une supercherie. Mais à chaque fois, lorsque ces auteurs ont essayé d'analyser un peu les faits, ils ont dû se rendre à l'évidence qu'il y a eu vraiment une résurrection. Il y a un livre qui est paru récemment d'une personne qui est encore vivante, un journaliste d'investigation, Lee Strobel, qui était un journaliste dans un journal très connu de Chicago, qui lui aussi s'est attaqué à la résurrection. Et en fait, il est devenu converti, il est maintenant un grand défenseur de la foi. Il a écrit plusieurs ouvrages, le procès de Jésus, je crois que ça s'appelle, qui ont été traduits en français d'ailleurs, et qui sont des ouvrages remarquables qu'on peut offrir à des gens qui ne sont pas encore convaincus de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut avoir toujours le cœur ouvert, parce que sinon, c'est sûr que si on est a priori braqué contre la résurrection, on ne va pas y croire, même si des preuves irréfutables nous étaient présentées. Et donc ce récit de la résurrection, une chose intéressante aussi, c'est qu'il y a des petites divergences sur les détails dans les quatre évangiles. Et au lieu d'affaiblir notre foi dans la résurrection, ça devrait au contraire la conforter. S'il y avait quatre fois le même récit, du copier-coller, ça pourrait nous dire qu'en fait, ils se sont mis d'accord pour avoir une histoire qui soit cohérente, et ces petites divergences sont au contraire une preuve de la réalité des récits personnels des quatre évangélistes. La résurrection, c'est la preuve que le prix a été payé. La Bible nous explique que nos péchés nous ont rendus coupables, que nous devrions payer le prix de ces péchés, que le prix à payer, c'est la mort. Et la résurrection, en fait, c'est un peu le reçu que le prix a été payé. Quand vous faites vos achats, si vous avez à rendre compte dans le détail de vos dépenses, pour une raison ou pour une autre, que ce soit pour les impôts ou pour que ce soit pour votre épouse qui fait les carnets de chèques, qui réconcilie le carnet de chèques avec les reçus de la banque. L'autre jour, on était en Italie. N'allez pas à Bordighera le 1er mai. Ce sera une mauvaise idée. Un très beau village, mais on est allé avec nos amis qui nous rendaient visite. Et Guillaume et Marianne, on est allé déjeuner à Bordighera. Et au retour, il nous a fallu 3h30. Un voyage qui peut prendre 40 minutes à tout casser, si on n'est pas ralenti. Mais on aurait aimé que les péages soient gratuits pour accélérer un peu les choses. Mais quand on passait au péage, justement, j'appuyais toujours sur le bouton ricevuta, le bouton du reçu, pour avoir un papier qu'on puisse utiliser lorsqu'on cherche à savoir où est passé l'argent à la fin du mois. Et ce petit reçu, généralement, on n'en a pas besoin. Lorsque vous avez signaler, vous avez fait des dons à l'Église, des offrandes, des dîmes par des chèques à la fin de l'année pour vos impôts. Sébastien Pic vous fait des jolis reçus qui disent que vous avez bien versé à une association loi de 1905, que vous avez droit à une déduction de 60% de vos dépenses dans la mesure de, je ne sais plus trop, 60% de vos revenus. Vous avez droit à une déduction fiscale. Alors maintenant, quand on fait les déclarations en ligne, on ne sait pas comment envoyer ce reçu, mais tout ce qu'il vous faut, c'est garder ce reçu pour pouvoir le produire lorsque l'ennemi vient vous chercher des noises. Alors je plaisante, le service des impôts, les services fiscaux ne sont pas nos ennemis, ils sont nos amis, puisqu'ils utilisent cet argent à bon escient toujours, sans jamais le gaspiller pour faire des routes, pour entretenir la défense de notre pays, etc. Pas de sarcasme, c'est pas bien. Mais on garde ce reçu et on peut leur montrer de la même façon. La résurrection, c'est le reçu que vous pouvez montrer à Satan lorsqu'il vient vous attaquer en vous disant que le prix n'a pas été payé, que vous devez payer, que Dieu ne vous considère pas comme innocent. Il peut vous faire douter de ce salut. Mais vous pouvez vous rappeler et lui montrer le ricevuta de la resurrezione. Le reçu de la résurrection, de la pénalité, la preuve que ça a été payé, c'est de lui rappeler que Jésus est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. C'est la preuve que le Père a accepté le sacrifice et que vous êtes au bénéfice de l'innocence de Jésus. Mais c'est un peu long comme introduction, on va regarder notre texte. Luc 24, chapitre 1, verset 1, pardon. Le premier jour de la semaine, les femmes, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elles, le dire et les autres avec elle, pardon, le dire aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie dans ma version, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. On va s'arrêter là. Le récit de Luc, très bref, sur la résurrection de Jésus-Christ. Elles font ça le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et l'événement est tellement important, la résurrection, que nous célébrons, nous nous réunissons pour célébrer, pour glorifier Dieu, pour le louer, le premier jour de la semaine. Dans la tradition juive, la journée la plus importante, c'était le sabbat, notre samedi, qui correspondait au repos que Dieu avait pris après avoir créé le monde et qui était aussi un repos, une institution pour le bien des hommes, prendre un jour de repos. Quelque chose que de plus en plus nous oublions dans notre société, au nom de la laïcité, il y a encore une résistance pour garder un jour de repos dans la semaine, pour que le dimanche ne soit pas un jour comme les autres. Mais c'est la sagesse de Dieu qui nous recommande de nous débrancher, de nous déconnecter, de ne pas faire de Facebook. Oh non, quand même, ne dis pas ça à Pierre. Pas de selfie. Oh non ! Guillaume est devenu le roi du selfie. Lui qui était comme Thomas, qui doutait du bienfait des iPhones. Maintenant, il est un disciple, il est un évangéliste des iPhones et du selfie. Je le taquine un peu gentiment. C'est pas vrai tout ça. C'est le dimanche, donc, qu'elles se rendirent à la tombe de bonne heure, de grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Les femmes, il était dit dans le chapitre précédent, verset 56, elles avaient respecté le jour du sabbat, mais elles avaient déjà préparé les aromates et les parfums pour embaumer le corps de leur cher bien-aimé Jésus-Christ. Une des autres théories pour expliquer que la résurrection n'a pas eu lieu, c'est la théorie psychologique de la grande attente. Lorsqu'on s'attend à un événement, on est tellement convaincu qu'il va arriver que on imagine qu'il arrive. C'est un peu comme si on en rêve. Vous en avez rêvé et Sony l'a fait. Non, c'est pas le cas, mais si on attend quelque chose tellement, on va s'auto-convaincre que la chose a bien eu lieu. Une espèce de méthode Coué. Mais cette théorie, encore une fois, comme toutes les théories qui cherchent à démonter la résurrection, prouver que ce n'était qu'un canular, elle ne tient pas la route. La preuve, c'est que les femmes, elles ne s'attendent pas à ce que Jésus soit ressuscité. Il va falloir au contraire qu'on les convainque de la résurrection. Elles étaient prêtes, elles avaient préparé tout ce qu'il fallait, les aromates, je suis sûr qu'on peut trouver des recettes. On vit dans une région similaire à Israël, au niveau du climat et de la végétation. Je suis sûr qu'on peut prendre de la sauge, du thym, du romarin, faire revenir tout ça. Et elles étaient désolées, elles avaient dû s'interrompre. Elles avaient commencé trop tard, elles avaient dû observer le repos, mais dès le lendemain, le premier jour de la semaine. En fait, la journée allait de 6h à 6h. Dès qu'elles ont pu venir, elles sont là, elles ont les aromates, elles sont prêtes à embaumer le corps de Jésus, qui a déjà été entouré de bandelettes, mais elles s'apprêtaient sans doute à finir le travail. Et là, surprise, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Les tombeaux en Israël, pour les gens qui avaient des moyens, et là c'était le tombeau qui appartenait à Joseph d'Arimathée, un des responsables religieux, mais qui aimait le Seigneur, qui avait la foi en le Seigneur, qui avait été demandé le corps à Pilate pour lui permettre d'avoir une sépulture digne. Et lorsqu'on va en Israël, on nous propose de voir un lieu qui, j'en ai parlé la semaine dernière, se trouve pas loin d'un endroit qui ressemble à un crâne. ce qui pourrait être très bien Golgotha, et à très peu de distance, il y a ce tombeau, et on peut voir un tombeau, une petite salle aménagée dans le rocher. Il y a une roue devant qui roule dans une rainure, une roue qui est aussi haute qu'un homme, près de 2 mètres, une roue qui est assez lourde et qui est bloquée par un coin en bois lorsque le tombeau est ouvert, et qui se referme et qui est lourde à pousser pour l'ouvrir. Et à l'intérieur, il y a généralement, dans celle qu'on nous fait visiter, il y a 2 chambres. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle est vide, vide de vide. Et à l'époque, ce qu'on faisait, c'était qu'on mettait le corps embaumé ou pas, et que très rapidement, avec la chaleur du climat, la décomposition se faisait au bout de quelques mois, voire 1 an ou 2. On pouvait rentrer, prendre les ossements, et on les mettait dans une boîte en pierre, on appelait ça un ossuaire, et on pouvait de nouveau, on gardait dans la tombe, et on peut visiter des ossuaires avec plusieurs boîtes, des tombes plutôt, avec plusieurs boîtes. Récemment, il y avait une de ces ossuaires qui avait fait grand bruit parce que il était question de Jacques, le frère de Jésus. Mais à l'examen, Jésus, c'était un nom assez commun. C'était le nom de la version grecque ou hébraïque de Oséa, ou plutôt la version grecque de Osée. Et on voit ce tombeau, et on voit effectivement qu'il y avait cette pierre. Et souvent, on pense que, vous vous souvenez, il y avait des gardes romains qui avaient été postés, et eux, s'ils avaient laissé quiconque entrer, une autre théorie, c'est que les disciples sont venus voler le corps de Jésus, et puis qu'ils l'ont fait disparaître. Mais lorsqu'on voit qu'ils sont morts pour leur foi quelque temps après, on sait que s'ils avaient vraiment procédé à une supercherie, certains d'entre eux auraient dit « Non, c'est pas vrai, pardon, on a voulu faire une petite blague, et le tombeau, en fait, on l'a vidé, mais on peut vous donner le corps. » Mais rien de tel n'est apparu. Et donc, cette tombe, cette pierre, a été roulée. Je vous parlais, là, il y a quelques instants, des livres qui ont été écrits. Il y a un dénommé Morrison, Frank Morrison, je crois, qui a écrit un livre qui s'appelait « Qui a bougé la pierre ?» Et ce qu'il faut bien réaliser, en fait, c'est que la pierre, elle n'a pas été bougée pour permettre à Jésus de sortir. Elle a été roulée pour permettre aux femmes, et puis après aux hommes, de pouvoir rentrer et voir que le tombeau était vide. J'aime bien l'idée, j'ai posté ça sur Facebook, en fait, que le rocher des siècles, un des noms de Jésus, le roc, qui suivait les Juifs dans leur exil, dans leur exode, qui leur donnait à boire, c'était lui qui les suivait, il est le roc, le rocher des siècles, qui est le rocher qui est plus haut que moi, nous disent les psaumes. Il n'a pas besoin d'un rouleur de pierre. Il est bien plus grand que ça. Il a toute la puissance. On verra même que dans d'autres récits, il pouvait entrer dans des pièces qui étaient fermées. Alors on peut penser que son corps de résurrection avait des propriétés qui lui permettaient de franchir les obstacles matériels. On en a souvent parlé, mais la science moderne nous apprend que on n'est que du vide, que si on réduisait le plus grand bâtiment de New York, ou le plus ancien, l'Empire State Building, si on enlevait tout le vide qui sépare les électrons qui tournent très vite, des noyaux, si on en faisait vraiment, si on comprimait tout ça avec une force incroyable, on pourrait réduire ce bâtiment gigantesque à la taille d'un noyau de cerise. Mais un noyau de cerise qui pèserait des milliers de tonnes, des millions de tonnes. Il ne faudrait pas le laisser tomber sur votre pied. Tout ça pour dire qu'en fait, ce qu'on croit être solide, c'est plus des champs magnétiques qui font qu'on ne peut pas pénétrer. Mais Jésus, notre corps, le corps qu'on aura à la résurrection, rien ne nous dit pas que, ne nous dit que ça ne pourra pas, ces champs ont pu être modifiés et on pourra, comme dans les films où on voit quelqu'un passer à travers un écran, à travers un mur. Donc, tout ça pour dire que le tombeau était ouvert, la pierre avait été roulée pour que les femmes puissent rentrer. Elles n'auraient pas pu le faire toutes seules. Et elles étaient vraiment surprises, elles étaient perplexes. Puis il est dit qu'il y avait deux hommes qui se présentèrent à elles en habits resplendissants. Alors là aussi, les quatre récits divergent un peu sur le nombre de personnes. Il faut savoir que dans la tradition hébraïque, souvent on parlait de, s'il y avait un groupe, on parlait de ce groupe en parlant de la personne qui le représentait ou de la personne qui parlait. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction qui soit un obstacle au récit. Mais certains parlent d'hommes, ici ce sont des hommes, mais ils sont en habits resplendissants. On considère que ce sont des anges, des envoyés de Dieu. Et elles sont frappées de crainte. Et c'est pour ça qu'elles baissent le visage vers la terre. Je crois que quand on est vraiment en présence de Dieu, toute la Bible nous raconte que on a conscience de notre péché, on a conscience de notre indignité de paraître devant lui. Et là, devant ces hommes qui ont des habits resplendissants, qui brillent, qui sont comme une lumière très forte, c'est le même mot lorsque Jésus paraît avec Moïse et Élie dans la transfiguration, il y a cette lumière brillante et elles sont inquiètes et il faut que l'un des personnages leur parle. Et il a cette phrase fantastique, cette phrase sur laquelle on peut méditer. Méditer, c'est un peu comme les bovins, les vaches qui ruminent, c'est prendre quelques paroles et les mâcher, les repasser dans notre esprit, réfléchir. Et je vous invite à, au moins cette semaine, à prendre ce verset. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il faut savoir que déjà le cimetière, les morts, c'était quelque chose qui rendait les Juifs impurs. Donc on n'allait pas se promener, si on pouvait l'éviter, dans les cimetières. Aujourd'hui, il y a des embouteillages et des problèmes de parking devant les cimetières une fois par an. Et c'est tout. En général, les gens vont plutôt à Bordighera, on en a fait la preuve, qu'aller se promener au cimetière de Cocade. Pourquoi? Parce qu'on est un peu mal à l'aise devant la mort, Et c'est souvent des endroits formidables si vous cherchez à réfléchir un peu en paix. Si vous voulez méditer sur la brièveté de la vie qui se réduit à un tiret entre deux dates, ou simplement parce que vous devez vous promener, vous cherchez un endroit tranquille, il y a les églises catholiques, ou les églises comme ici. Pendant la semaine, c'est très calme. On va mettre un peu plus d'animation, mais avec le Café Colombe. Mais généralement, les femmes n'auraient pas été là-bas, n'auraient pas été se promener parmi les morts. Et par cette ces paroles riches de sens, les anges ou les personnes qui parlent aux femmes leur disent: vous êtes ici dans le domaine des morts, dans les cimetières, pourquoi est-ce que vous venez chercher le vivant? Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Et bien sûr, on peut penser que oui, nous aussi, on est souvent... on cherche des fois le vivant parmi les morts. On cherche Jésus en cherchant à évoquer sa vie exemplaire. On le considère comme un grand homme, peut-être celui qui a eu les plus nobles sentiments qui ait jamais vécu sur la planète. Et puis on le voit dans le passé. On dit, dans l'ancienne numérotation, maintenant il y a des expressions laïques. Avant, on disait 50 ans avant Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il est vivant. C'est pas seulement sa venue, c'est sa mort. Il était de toute éternité, il s'est incarné, il est mort, mais il continue, il est ressuscité. Et donc, il faut pas le présenter comme quelqu'un du passé, comme un grand homme qui a vécu. On peut le considérer comme mort lorsqu'on se contente de faire des analyses de textes, comme on prend les œuvres de Shakespeare et on va faire une application de texte, je crois qu'on utilisait le terme. Élodie n'est pas là pour nous confirmer le terme. Mais quand j'étais gosse, on faisait des applications de textes, des analyses de textes avec Lagarde et Michard ou Castex et Surer, des ouvrages traditionnels, mais on prenait les mots, on regardait. Non, c'est bien de regarder les paroles que Dieu a dites, ce qu'elles voulaient dire quand elles ont été prononcées, ce qu'elles signifient aujourd'hui, mais plus important, c'est comment les appliquer dans notre vie. Parce qu'il est vivant et ce qu'il nous dit, ce n'est pas des vieilles explications de texte. Ce n'est pas quelqu'un simplement à étudier. C'est quelqu'un à suivre parce qu'il marche devant nous. Il est ressuscité, il intercède pour nous. Et des fois, on pense que c'est un super modèle à suivre, comme on suivrait les écrits de Confucius, parce que c'est un homme qui avait une vie, selon certains, remplie de sagesse. S'il ne connaissait pas Jésus, s'il n'avait pas Jésus en qui tous les trésors de la justice et de la sagesse de Dieu sont cachés, il n'était pas parfaitement sage, il était presque sage. Presque sage. Et ce n'est pas un modèle qui nous permet de vivre. Les hommes, pendant des siècles, ont regardé les oiseaux. Ils se sont dit, ce serait trop bien si on pouvait voler. On pourrait venir de Seattle à Nice en quelques jours. C'est pas le tout de regarder le modèle des oiseaux. C'est ce qui est merveilleux, c'est que des hommes ont travaillé, ont recherché, ils ont réussi à suivre le modèle des oiseaux, voir qu'en fait il y avait des principes, le fait qu'ils allaient vite, que ça exerçait une portance qui leur permettait de compenser leur poids, la portance qui arrivait à vaincre la pesanteur si la vitesse était assez grande. Alors il y a des hommes qui ont cherché, des hommes qui se sont tués en essayant de faire les oiseaux, en sautant du dernier étage et en se fracassant le corps. Mais de la même façon, il faut réaliser que Dieu nous a donné Jésus, non pas pour le suivre comme un exemple, mais c'est lui qui doit vivre en nous. C'est lui qui est le ressuscité, il est vivant. On dit des fois chercher midi à 14 heures pour dire qu'on cherche au mauvais endroit. Et là, des fois, on peut chercher Jésus au mauvais endroit. On va le voir sur une croix encore sanguinolent, la tête baissée. Non, il est ressuscité. Et je vous invite vraiment à essayer de méditer ce verset, voir combien de fois par jour vous cherchez le vivant parmi les morts. Vous voulez travailler pour lui et vous allez voir ce qu'on faisait au XIIe siècle. Et vous essayez de reproduire, vous essayez de vous attacher à des traditions d'Église. Alors il y a des choses qui ne changent pas, la parole de Dieu ne change pas, mais il y a plein de choses qu'il n'est pas mauvais du tout de remettre en cause pour suivre quelqu'un qui est vivant, qui peut vous donner de nouvelles idées. Il ne s'agit pas de copier ce qui se passe dans telle autre église, dans tel autre pays, dans tel autre mouvement, mais d'avoir une relation vivante avec celui qui peut vous dire « voilà ce que tu dois faire ». Aujourd'hui, ou dans ces temps, dans cette année. Il rappelle cet ange, il faut, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Alors c'est vrai que des fois Jésus parlait de sa résurrection en termes un peu difficiles à comprendre, on dirait des termes sibyllins, lorsqu'il disait que devant ses disciples qui admiraient le temple, il leur disait que ce temple allait être détruit en 3 jours, mais qu'il le serait rebâti, qu'il le rebâtirait. Il est dit plus tard qu'ils ont ajouté qu'il parlait de son corps, mais je crois que c'est dans ce sens-là qu'il y avait une attente. Il ne voulait pas que Jésus meure, il l'aimait trop, il était trop puissant, il leur rendait la vie trop, trop merveilleuse. Il ne s'attendait pas à ce qu'il meure, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il ressuscite en fait. Dans Luc 9, 22-23, entre autres, donc le même évangile, lorsque Pierre avait dit « Tu es le Christ de Dieu », lorsqu'il avait demandé « Qui dites-vous que je suis ?», Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. C'est Luc 9, 21. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Il leur avait dit clairement, mais ils ne voulaient pas l'entendre. Et nous aussi, il y a des choses que nous ne voulons pas entendre. Et on dit qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Toute la parole nous dit « écoutez ». C'est intéressant, même en français, « écouter », c'est aussi des fois le sens d'obéir. Les enfants, vous n'écoutez pas, vous n'aurez pas de dessert. Écouter, entendre et mettre en application. Et donc, eux, ils voulaient un Messie triomphant qui les libère du joug romain et qui leur donne les places d'honneur ou les meilleures places au gouvernement. Et pourtant, il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, il avait été crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Et là, elle se souvint des paroles de Jésus. Si nous souvenions des paroles de Jésus, plus souvent, plus régulièrement, d'où l'importance d'être dans la parole de Dieu. Ah oui, je me souviens, on avait parlé de ça à Noël dernier, que Jésus bénit ceux qui l'écoutent. Non, si on est dans la parole, ces choses nous sont rappelées. Nous avons besoin qu'on nous les rappelle parce que nous avons la fâcheuse tendance d'oublier et d'oublier. Ça sort par une oreille et ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. le leitmotiv des lettres dans l'Apocalypse. Elles se souvinrent des paroles de Jésus et elles vont aller témoigner maintenant. Et on va voir que dans le chapitre 24, il y a deux autres rencontres. Il va y avoir la rencontre avec les disciples d'Emmaüs et puis la rencontre avec le reste des autres disciples. Et à chaque moment, à chaque rencontre, il y a un peu le même schéma. Il y a l'étonnement. Après, il y a la reprise ou la condamnation par les anges qui disent « Vous avez oublié ?» Jésus va dire dans les autres rencontres « Vous avez oublié ? Vous ne vous rappelez pas ?» Et puis, il va y avoir cette information. Il n'est plus parmi les morts, il est parmi les vivants. Et puis, à partir de ça, lorsqu'on a été... D'abord, on est déprimé, après on est repris, après on est instruit ou informé, et après on va témoigner. S'il n'y a pas cette dernière partie du témoignage, on est en droit de douter qu'il y a vraiment eu un salut, que ça a vraiment percolé, que ça a vraiment transformé notre vie. Là, elles s'en retournent du tombeau. Elles étaient tellement émerveillées. What a tombeau! Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. Il cite certaines de ces femmes, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, traditionnellement, on pense que c'était une prostituée, mais c'est nulle part, ça n'est dit dans la parole de Dieu. Elle est célèbre dans la parole de Dieu pour avoir été celle qui était à la crucifixion, qui a assisté à la crucifixion, et celle qui a assisté à la résurrection. Tout ce qui est dit dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus avait chassé d'elle 7 démons. Alors, il y a peut-être c'est pas impossible, mais il y a des fois des croyances populaires qui touchent même les chrétiens qui pensent connaître bien la Bible et qui pensent ne se référer qu'à elle. Méfiez-vous de Saint-Pierre à la porte du paradis. C'est bien pour raconter des blagues, mais c'est pas nulle part c'est dit dans la Bible. Il sera peut-être là-haut, je ne veux pas présumer, mais elles sont là, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres avec elle, dirent aux apôtres tout ce qui s'est passé. On est allé là-bas, on s'est levé de bonne heure, là, on était fatigués, et la porte c'était déjà ouvert. On s'est dit, mais qui c'est qui a fait ça? Puis on a vu deux gars là, ils nous ont dit, mais il n'est plus là. Pourquoi vous le cherchez parmi les morts alors qu'il est vivant? Puis il nous a dit, mais vous ne vous rappelez pas, vous n'aurez pas été surprise, il vous l'avait dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. 1, 2, 3. La théorie de la grande espérance ou de la grande attente des disciples, encore elle est mise à mal, parce qu'ils ne sont pas là à dire. Ah, enfin, ce qu'on voulait entendre, on va pouvoir commencer l'église. Non, ils disent, allez-vous coucher, vous n'avez pas assez dormi. C'est intéressant de regarder les traductions de ce mot, des niaiseries. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez dit une niaiserie? Aujourd'hui, on a des mots plus forts, mais le mot... Original, c'était en fait un mot qui voulait dire le délire qu'on prononce quand on a de la fièvre et qu'on dit des paroles incohérentes. Et donc c'était vraiment ils étaient un peu influencés par leur société dans leur machisme. Oh, des histoires de femmes. Vous n'avez pas assez dormi. C'est des billes vesées ou des foutaises. On dit bile ou bille? Moi, je dirais bille vesée. C'est des vieux mots, j'essaye de jeter du vocabulaire pour dire que ce mot-là, il est très fort. Il veut dire que vous êtes complètement cinglé, on aurait dit. Il ne s'entendait pas. Et, par contre, verset 12, Pierre se lève quand même et il courut au tombeau. C'est intéressant là aussi parce que dans l'évangile de Jean, Jean, faisant la même description, dit qu'il est parti aussi avec Pierre en courant, mais que c'est lui qui est arrivé le premier, nananananer. Le disciple que Jésus aimait est arrivé le premier, et c'est pas toi. Il y avait cette rivalité enfantine, ou humaine, je devrais dire, entre ces deux apôtres qui étaient un peu les plus forts des apôtres, les plus solides des apôtres. Et là, en se baissant, donc il doit baisser la tête pour rentrer dans la chambre où normalement le corps avait été posé, entouré de bandelettes, il voit des bandelettes à terre. Et là, il retourne chez lui, et là il est dit dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il était émerveillé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans Jean, le passage parallèle, Jean 20, versets 6 et 7, Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau, c'est Jean 20, verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Et c'est Jean qui écrit en parlant d'eux-mêmes, l'autre disciple. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau. Donc, il reconnaît qu'il était plus courageux quelque part que lui. Aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Avec l'autre disciple qui est arrivé le premier au tombeau entra aussi. Alors l'autre disciple entra aussi. Il vit et il crut. C'est intéressant. Et là, c'est bien d'être émerveillé, mais c'est encore plus important de croire. Des fois, les gens sont émerveillés, encore une fois, par la vertu morale de Jésus-Christ. Le fait que c'était un enseignant de grande qualité, que c'était un homme à qui on pouvait ne rien reprocher. Mais ce n'est pas la même chose que croire, c'est-à-dire mettre sa foi complètement en lui, être prêt à mettre toute sa vie, à l'appuyer sur lui, à construire sa vie sur le rocher. Il y a le grand auteur chrétien du début du XXe siècle, C.S. Lewis, qui avait présenté les choses en disant « On n'a que trois options devant Jésus-Christ. Soit c'était un menteur, soit c'était un fou, soit c'était vraiment le Seigneur. » Et c'est très facile de prouver qu'il n'était pas un menteur. Les gens disaient que personne n'avait parlé comme cet homme parlait. Tout ce qu'il disait dans sa parole, il l'a fait. On n'a jamais mis en question, on n'a jamais prouvé qu'il avait pu mentir. Et tous ses ennemis se seraient empressés de montrer ses mensonges s'il avait jamais menti. Soit c'était un fou, et pourtant les paroles qu'il a prononcées sont des paroles imprégnées de la plus belle et la plus grande sagesse et connaissance. Ça ne laisse plus qu'une seule option, il était vraiment le Seigneur, et devant ça, on doit tomber à genoux. On peut être émerveillé, mais il faut aller au bout de cet émerveillement. et se dire qu'en fait, Jésus est vraiment ressuscité et qu'on peut croire en lui comme étant notre maître, notre sauveur. Tous nous passons par des épreuves. Ces femmes étaient déprimées, épuisées, endeuillées, désespérées. Mais la conviction de la résurrection de Jésus, ça les transforme. D'un coup, leur fatigue, elle a disparu. Elles sont reparties dire aux apôtres. Elles sont pleines d'enthousiasme, elles sont pleines de joie. Et même si les hommes rejettent leur témoignage, ça, Pierre, qui lui avait une attente de pardon, parce qu'il avait été repris par le Seigneur lorsqu'il l'avait trahi trois fois. Il l'avait trahi avant que le coq ne chante trois fois. Trois fois avant que le coq ne chante une fois. Les cinq pains et les 12 poissons. Les cinq poissons et les deux pains. Les deux poissons et les cinq pains. C'est les chiffres qu'on confond des fois. Il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui est arrivé. Mais au moins, il a fait cette démarche et on va voir qu'il va, lui aussi être puissamment utilisé. Il va, dans le récit que Luc va continuer dans le livre des Actes, on va voir comment de la personne peureuse qu'il était, qu'il avait renié son maître à trois reprises devant des obstacles qu'il aurait dû surmonter, il va devenir un apôtre sans peur. Et là encore, c'est la réalité de la résurrection qui l'a transformé. On pense à ces personnes qui sont martyrisées en ce moment, qui sont persécutées, l'Église persécutée. On se demande comment elles font pour continuer à vivre. Je crois que le Seigneur leur donne la grâce d'avoir une espérance de résurrection, une conviction de sa réalité qui fait qu'ils sont à même de surmonter ces terribles obstacles. Et nous aussi, lorsque nous passons par des épreuves, nous devons aller chercher le vivant. Il nous attend, il veut nous parler, il veut nous réconforter. Et il est présent, c'est au moment présent, c'est pas dans des choses passées, des choses qui sont... Ah oui, je me souviens, quand je m'étais converti, j'avais ce feu qui brûlait en moi. On verra que les disciples sur la route d'Emmaüs se sont aperçus qu'en fait ils avaient un feu qui brûlait en eux lorsque Jésus leur parlait, leur montrer que dans la parole, il était question que de lui. Nous allons prendre la Sainte Cène, on va terminer par une prière. Après, je demanderai à Tonio, à Mitch, à Seb et Craig de prendre les éléments. Ils viendront nous les passer. On attendra les avoir tous reçus avant de les prendre ensemble pour se rappeler justement la mort et le fait que Jésus va revenir. Prions. Seigneur, merci pour ta résurrection, Seigneur. Merci pour cette réalité historique qui fait de ce jour que nous célébrons à Pâques le plus grand moment de l'histoire de l'humanité, Seigneur. Une humanité qui t'a rejeté, mais que tu es venu sauver. Tu es devenu déclarée innocente de tout péché pour ceux qui viennent à toi, Seigneur. Toi qui es le vivant, toi qui es ressuscité, toi qui vis à jamais, qui vis à jamais, Seigneur. Continue à nous parler, Seigneur. Continue par ton Esprit Saint à nous animer. Que ce soit vraiment plus nous qui vivions, mais toi qui vis en nous, Seigneur. Te remercions parce que tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu t'es incarné, tu t'es fait humble. Tu t'es fait humble, comme le dit Paul dans Philippiens, jusqu'à à la mort sur la croix, la plus infâme des morts, Seigneur. Tu t'es humilié sans compter, Seigneur, par amour pour nous. Merci parce que maintenant cette résurrection que nous pouvons croire avec certitude, Seigneur, cette résurrection qui est un fait prouvé historiquement, Seigneur, le fait le plus grand étant sans doute la transformation des disciples, d'hommes peureux et couards qui deviennent des hommes qui conquièrent le monde pour l'Évangile, Seigneur, au péril de leur vie. Merci de nous donner cette preuve qui est, comme nous l'avons dit, un reçu que nous pouvons montrer au diable lorsqu'il vient nous accuser. L'accusateur des frères, Seigneur, il ne peut rien contre le rocher des siècles, celui qui est venu mourir à la croix et qui est ressuscité. Seigneur, merci de ce que tu es vivant, tu entends nos prières. Et je voudrais vous inviter, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, à le faire en ce moment. Vous pouvez répéter en silence dans vos cœurs, si vous êtes touché, que vous voulez venir trouver le vivant. Seigneur, je sais que tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es vivant. Tu entends ma prière. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu as payé la dette que je devais payer. Seigneur, je t'invite à venir dans ma vie, dans mon cœur. Seigneur, viens me transformer de l'intérieur. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur, aide-moi à faire non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Seigneur, merci de me donner la vraie vie, Seigneur, la vie éternelle. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens. Et je saisis ton salut, Seigneur. Je le reçois comme le plus beau des cadeaux qui soit.